ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 22 mars 2016. Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour. Maxime Despomerleau au micro avec vous. J'ai une petite voix enrouée, mais mon travail est de faire parler mes invités, donc ça devrait bien se passer aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent, commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. À l'émission aujourd'hui, une première dans notre programmation, on sort des studios de Canal M pour vous présenter un reportage sur l'école spécialisée Joseph Charbonneau à Montréal, qui accueille des élèves en situation de handicap aux besoins très particuliers. Christiane Campagna nous partage le résultat de ses entrevues avec la directrice de l'école, Mme Louise Paquette. C'est en deuxième partie d'émission dès 12h30. On découvre Kinova, une entreprise canadienne œuvrant dans le design et la fabrication de solutions en robotique personnelle, notamment dans le domaine de la réadaptation. On reçoit Jérôme Bédard, spécialiste de produits, pour nous parler, entre autres, du bras Jaco. Vous allez voir, c'est tout un robot auquel on va aller à la rencontre aujourd'hui. Mais tout d'abord, on fait un retour sur le dépôt du budget provincial qui avait lieu le 17 mars dernier. Dans un contexte d'austérité, le milieu communautaire avait formulé plusieurs demandes, notamment par rapport à l'aide sociale, à l'accessibilité aux logements sociaux et dans les services du système d'éducation. Il est très tôt pour tenir une analyse approfondie, mais on est tout de même en mesure de dresser les grandes lignes de ce budget et parler des impacts possibles sur la vie des personnes en situation de handicap. L'organisme Execo travaille pour une société plus juste et inclusive et notre collaborateur, M. Benoît Racette, organisateur communautaire chez Execo, est dans nos studios. Bonjour Benoît.
Bonjour Maxime.
Merci d'être avec nous ce midi. Tout d'abord, bon, ça fait à peine quelques jours que le budget a été déposé, mais on est déjà capable de cerner certains enjeux auxquels il va falloir réagir très rapidement. Donc, on se questionne un budget, mais oui. Pour qui?
C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'investissements pour les entreprises dans ce budget-là. On n'est pas très surpris. C'est un gouvernement très logé à droite qui nous sert ce budget. On a fait miroiter un peu la fin de l'austérité en disant, bon, on va maintenant, après une maison en ordre, davantage investir dans les programmes. J'en suis pas sûr. Encore aujourd'hui, on est toujours un peu à fouiller ce qui s'est passé. Et je veux juste préciser d'emblée que ce budget dresse les grandes lignes, mais qu'il existe encore, je vous le dis à vous citoyens et citoyennes, une zone de négociation. En fait, on s'en va tranquillement vers l'étude des crédits budgétaires. Donc, ça veut dire qu'en commission sur la santé et les services sociaux, donc réunissant tous les partis, on va pouvoir étudier point par point ce budget-là et peut-être aussi identifier qu'on a oublié du monde, qu'on a oublié du financement. Mm-hmm. Et ça sera à nous là, à faire pression à ce moment-là.
Donc, il y a quand même une petite fenêtre de négociation.
Exact.
Pour combien de temps? Pour les prochaines semaines?
Bien, en fait, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas annoncé. Il faut attendre aussi le budget fédéral. Bon,
qui est déposé aujourd'hui.
Voilà. Et donc, on se doutait bien, la gang à Québec était bien informée sur ce qu'il y avait dans ce budget-là. D'ailleurs, je t'avais pas dit que je te parlerais de ça, mais il y a quand même des investissements à venir en transport. Et c'est important parce qu'il y a de l'argent pour le transport collectif et on espère, on compte sur le gouvernement fédéral pour mettre de la pression parce qu'il y a quand même deux ministres très sensibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, on compte sur le gouvernement fédéral pour mettre de la pression sur la mise en accessibilité du métro, entre autres.
Entre autres, justement, dans cette question des transports-là, effectivement, c'est sur les deux paliers, donc ce sont des enjeux plus complexes aussi. Avant d'aller parler... plus concrètement de différents aspects du budget, notamment la question du transport. Il y a déjà plusieurs organisations qui ont émis des communiqués suite au dépôt du budget. Et dans notre émission du 21 mars, on a justement abordé brièvement le budget avec le directeur du réseau FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. Quelles sont les cloches on obtient des organismes?
Ben, leur son de cloche rime avec nos casseroles. un petit peu. Parce que c'est sûr que, il le rappelle, on est face à un système dysfonctionnel qui a été extrêmement transformé par le Dr Barrette avec ses lois 10 et sa loi 20. Donc, on a beaucoup centralisé les choses. C'est très difficile, très opaque pour nous de comprendre quelles sont les dépenses réelles. Mais sur le terrain, on constate des coupures pour les personnes en situation de handicap. Donc, pensons entre autres au soutien à domicile. C'est très important parce que le gouvernement du Parti libéral du Québec avait fait des engagements, avait fait des promesses claires en 2014. Il avait dit investir 750 millions pour le soutien, ou plutôt les soins à domicile, 150 millions par année. Et on n'est pas trop sûr que c'est ça. En fait, on a réussi à retracer un 88 millions cette année, mais il y a aussi une partie de l'argent, je pense aux soutiens qui sont plus des soins infirmiers, etc., qui sont ventilés ailleurs, mais il manque d'infirmières. La FADOC le dit aussi, il manque d'infirmières. Il manque de ressources en travail social. Nous, c'est ça qu'on dit aussi, là. Moins d'ergos, moins de travailleuses sociales. Fait que ça vient impacter sur les services sur le terrain pour les personnes en situation de handicap.
Est-ce qu'il y avait un autre secteur en particulier qu'on a remarqué? Celui-là du soutien à domicile, c'est un dossier important
dont
Execo parle beaucoup. Ouais. C'est une question très importante en santé. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs auxquels on peut déjà remarquer soit des manques ou des gains qui ont été apportés?
Bien, en fait, c'est ça. Je clôrais peut-être... Bon, le soutien à domicile, ça fait partie de la grande famille de la santé et des services sociaux. Hein, je veux juste le dire. Les économistes s'entendent pour dire que ça prend 4 % de dépenses pour y arriver. On est à 2,4 % d'augmentation. Donc, c'est pour ça que les aînés avaient un peu crié. Nous aussi, on est inquiets de ça. Mais tu as raison, il y a l'éducation aussi. Hein? Et donc, moi, je dirais qu'il y a comme une prise, là. J'espère, en tout cas, qu'il y a une prise. Vous le savez, il manque des professionnels. Ça, c'est le défaut. On en a coupé beaucoup. On dit qu'on va peut-être réinvestir pour soutenir la réussite des élèves. Par contre, je ne suis pas sûr que ça va toujours vouloir dire d'embaucher plus de professionnels dans le public. Je me demande si on ne va pas faire appel beaucoup, peut-être aux organismes communautaires, en tout cas au milieu. Il faut surveiller ça, parce que défaire un système public comme le nôtre, comme on est en train de le faire, c'est risqué à long terme. Mais on dit qu'on va investir dans briques. Ça va être ça.
tu me l'apprends aujourd'hui dans la brique, dans les infrastructures.
C'est
donc,
ça. Puis qui dit brique?
Qui, cela dit, reste tout de même essentiel et nécessaire, un réinvestissement.
C'est important, non, mais il faut dire, parce que les édifices ont beaucoup de misère, les écoles, on sait, certaines sont dans des mauvaises conditions. Mais ce que je veux dire, c'est que si on réinvestit dans la brique, peut-être qu'on va améliorer la performance en accessibilité. Moi, ça serait un vœu pieux que je ferais. J'ajouterais, on parle de brique, mais ça veut dire du logement aussi, ça, la brique. Hein? Et vous avez sûrement entendu le Frappru, mais aussi d'autres groupes qui se sont inquiétés de la diminution du nombre de logements sociaux. En fait, avant 2015-2016, on promettait 3000 unités de logement social par année. Ce que le gouvernement a fait depuis maintenant deux budgets, c'est qu'il a réduit ça à 1500. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre monde, ça? Quand on construit des logements sociaux, on pense à l'accessibilité universelle. Quand on donne un supplément au loyer, comme c'est la stratégie du gouvernement, il a dit qu'elle allait enlever des unités de logements sociaux pour donner des subventions au monde qui avait de la misère à payer, mais ça peut être dans le privé, ça peut être en coop, etc. Ça fait qu'on est... il y a des risques qu'on ait moins de nouveaux logements accessibles. Et on le sait, c'est très peu important le nombre de logements accessibles, adaptables ou adaptés. Alors... ça, pour nous, c'est un problème du budget. Il faudra continuer de surveiller là, que ces unités de logements sociaux-là vont faire de la place pour notre monde.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on aborde quand même certains points. On avait déjà commencé à parler de la question du transport. Il faut attendre de voir quel sera l'apport du fédéral dans ce budget qui est déposé aujourd'hui, le 22 mars. Mais donc, il y a la question à la fois du transport régulier, toute cette mise en accessibilité, mais aussi le transport adapté qui reste un service essentiel.
Absolument. Et ça, c'est on doit revoir, hein, parce qu'il existe un plan d'action. Il y a des engagements 2015-2019 qui ont été pris par le gouvernement à l'égard de la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. Là-dedans, on dit qu'on va revoir le transport dans les prochaines années. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis souvent inquiet parce que d'habitude, on met sur la table, ben, voulez-vous du transport régulier ou voulez-vous du transport adapté? Parce qu'on ne peut pas payer pour les deux.
On a tendance à opposer les deux systèmes alors qu'en fait, ils sont complémentaires.
Parfaitement, mon Dieu, vous devriez travailler en pression publique pour faire entendre ça au ministère des Transports. Mais je voudrais finir avec quelque chose de très important. Quand on fait des choix budgétaires, quand on bouleverse à ce point un système, il faut rester à l'écoute des besoins des gens. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement avec les réformes, c'est qu'on réduit de plus en plus l'espace démocratique et l'espace pour les personnes d'identifier les problèmes. On a appris il n'y a pas longtemps que le commissaire à la santé allait être coupé. Et donc...
Oui, très, très récemment, c'est sorti dans les nouvelles.
Il l'a pris lui-même à peu près avec le budget. Donc, ça, c'est très inquiétant parce que ce sera le ministère de la Santé et des Services sociaux qui jugera seul de ces changements et de l'impact sur la santé. Et un des acteurs qui va étudier ce que le commissaire faisait, c'est un institut qui s'occupe de la performance. On s'entend que la performance dans la gestion des ressources puis des effectifs, ça n'a rien à voir avec le droit et la santé. Ça n'a rien à voir avec... les besoins réels des personnes. Et donc, il n'y a plus d'instances pour évaluer ça correctement. Le PHQ, on peut en parler, l'Office des personnes handicapées, ils ont beaucoup de pain sur la planche, aucune augmentation de leur budget, et ils doivent réévaluer tous ces programmes. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, écoutez, vous savez, les programmes pour les personnes en situation de handicap, ça peut à peu près se décliner en plus de 150 programmes. C'est du stock, c'est du sport. Et est-ce qu'on aura les moyens, en plus, parce que les comités d'usagers, ils ont été fusionnés, sont rapetissés, ils couvrent des territoires plus grands, est-ce qu'on aura l'espace pour faire entendre quand il y a des erreurs, pour montrer les besoins comme ceux qu'on a relevés? On en a vu, nous, des coupes sur le terrain. Mm-hmm. On envoie un soutien à domicile, on envoie avec les services de santé, on envoie un logement. Est-ce que ce gouvernement-là n'a pas fermé la porte de la démocratie pour imposer celle d'une gestion hyper-performante? C'est un peu la question qu'on pourrait se dire à la lumière de ce dernier budget.
Merci beaucoup. Benoît Racette, organisateur communautaire chez Execo. Vous travaillez tous les jours à une société plus inclusive. Merci d'avoir ce poste de surveillance et de nous rappeler à l'ordre et de nous faire connaître les enjeux qui sont prioritaires dans notre société.
Merci pour ton émission, surtout.
Merci.
Cessons de faire semblant, essayons d'ôter nos gants blancs. On pourra pas faire ça sans temps. Quand est-ce que les inhibitions tombent et que les sentiments grondent, qu'on laisse de côté les mensonges. Juste une seconde, que les sous se taisent de feu qui fait fondre. Juste une seconde. Lève ton verre, baisse ton verre, j'espère. Cessons de perdre notre temps, on s'endormira content. Je t'aime, je t'aime, hey, serrons-nous d'un cran. La nuit sera longue. Quand est-ce que les inhibitions tombent et que les sentiments grondent, qu'on laisse de côté les mensonges. Juste une seconde, que les sous se taisent.
Just
Karim Ouellet avec sa pièce « Cœur de pierre » tirée de son plus récent album « 30 » paru dans les derniers jours dans les bacs. Je vous invite à vous le procurer. Dans ce deuxième segment d'émission, on se penche sur le mariage heureux entre technologie et médecine, notamment l'utilisation de la robotique pour augmenter l'autonomie des personnes à mobilité réduite. J'accueille en studio M. Jérôme Bédard, spécialiste de produits chez Kinova Robotics. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
J'ai présenté très, très brièvement Kinova Robotics en début d'émission, mais j'aimerais vous entendre d'abord sur votre fonction et sur aussi un historique de Kinova.
Oui, pas de problème. En fait, Kinova Robotics, c'est une entreprise qui a été fondée en 2006 par deux ingénieurs mécaniques qui étudiaient à l'époque à l'ETS, donc l'École de technologie supérieure de Montréal, qui sont Charles Deguire et Louis-Joseph Lécuyer. Et en fait, eux, c'est un peu, ça a débuté par un projet à l'école qui s'est transformé en fait en étant une compagnie par la suite. C'est que un des oncles de Charles, qui s'appelait Jacques Forêt, Jaco, vous allez faire le lien pour les intimes, était un inventeur. En fait, l'homme avait la dystrophie musculaire. Et il s'était inventé lui-même un bras robotisé maison avec... En fait, on a des pieds de micro ici, en fait, vous voyez. Là, c'est comme avec des ressorts, des objets de la vie courante. Et il se débrouillait avec ça. Donc ça a beaucoup inspiré Charles. Puis en fait, il a décidé de pousser le concept un peu plus loin, d'avoir un bras robotisé qui peut aider une personne en limitation physique du haut du corps.
C'est ça, parce qu'on parle vraiment de davantage. C'est vers le type de service que vous êtes spécialisé, finalement. C'est robots, c'est bras robotisés pour ceux qui ont des limitations au haut du corps. Donc, on parle les bras, les mains aussi, oui. Parce que les bras ont quand même une sensibilité. Oui. Tous les éléments de la dextérité sont présents. Parlez-nous justement de ce bras Jaco. Paru, qui a été lancé sur le marché en 2009.
Oui, 2009-2010 environ, c'est ça. En fait, il n'y avait rien qui existait sur le marché qui était vraiment pour ce besoin-là. Donc, ils ont extrêmement travaillé pour développer un bras avec des moteurs donc, qui sont assez forts et assez légers en même temps. C'est ça, ce paradoxe-là. Parce que ce qu'ils voulaient, il y avait plusieurs fonctions qu'il fallait que le robot puisse faire. Donc, lever des objets de la vie courante, mais surtout être capable de pouvoir s'installer sur une chaise roulante motorisée, un fauteuil roulant motorisé, et donc pas trop tirer de courant. Donc ça, c'est une contrainte technique qui a fait une grande différence, en fait, dans la conception. Et ils sont arrivés. Donc maintenant, le bras, est, comme je dis, il est capable de lever et de prendre différents objets de la vie courante, dont des verres d'eau, ouvrir des portes, ramasser des choses par terre. Donc il est assez long, 90 cm, pour aller ramasser, exemple, un stylo qui est tombé au sol. Donc ça, c'est une grande différence pour les usagers dans leur autonomie. Et le contrôle se fait par défaut, là, c'est-à-dire quand il est vendu, il peut être fait par une manette qui permet de vraiment ouvrir, fermer, avancer, tourner. Donc, tous les axes sont couverts. Ou, là, l'autre étape qui est intéressante, selon le handicap en question, il y a une possibilité de l'intégrer au contrôle qui est déjà en vigueur sur le fauteuil roulant de l'usager. Donc, ça peut être via un bouton supplémentaire, ça peut être... Puis il y a beaucoup d'options comme ça qui peuvent être ajoutées pour que ça ne soit pas une manette nécessairement qui est trop précise là, pour l'usager.
Ou supplémentaire, c'est vraiment de s'adapter finalement à la condition de l'usager.
Puis le but, c'est que ça soit facile d'utilisation. Et parce que, encore une fois, c'est ce qui se faisait à l'époque, les bras robotisés, c'était très complexe. Ça prenait un manuel d'utilisation. Et l'objectif, la simplicité, donc on revient toujours aux 3 S de Kinova, c'est simple, donc d'utilisation, pardon, sécuritaire, et sexy, ça c'est pour le design.
Okay.
Mais la simplicité, c'est qu'on vise qu'en 5 minutes, toute personne, moi, vous, quelqu'un qui est un usager...
Un enfant?
Un enfant peut-être pas, plus comme vers 13 ans, 12 ans, est capable d'utiliser en 5 minutes le bras et être capable d'aller chercher un verre d'eau.
C'est vraiment une application concrète dans la vie quotidienne.
Exactement.
Parce que c'est ça qu'on vise. On vise vraiment une meilleure autonomie.
C'est ça.
C'est un accompagnement. Vous faites de la robotique d'assistance. Est-ce que ça serait plus ce cas-là pour Jaco?
Exactement. Donc, en fait, Jaco, c'est la robotique d'assistance. Il a été faite pour ça au départ, donc pour aider les gens. Et étant donné qu'il était très précis, dans le sens, dans son besoin, il a été extrêmement bien fait. C'est une qualité qui est souvent redite. Votre robot, il est bien fait, il est simple. Et là, étant donné qu'il était bien fait, il a attiré l'attention de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres marchés, dont la robotique de service.
Exact.
Donc, la robotique de service, c'est d'autres marchés. Ça peut être ce qu'on appelle la logistique dans un entrepôt pour aller chercher des objets, pour le mettre sur un véhicule lunaire, plein de choses comme ça. il sert aussi à ça. Donc ça, c'est fascinant. Ça a amené toute une autre porte à Qnova.
Tout à fait. C'est vraiment des multiples possibilités pour l'entreprise. Exact. C'est vraiment génial. Mm-hmm. Le bras Jaco... Là, on est un peu émerveillé par cette idée de technologie lunaire qui pourrait peut-être même être sur comme le fauteuil roulant à côté. Mais c'est des coûts.
Ouais, c'est
combien,
ça.
Combien est-ce que ça coûte
C'est pas donné. C'est pas donné, mais ce qui est bien, bon, c'est environ installé sur un fauteuil roulant motorisé, c'est autour de 45 000 $ canadiens. Donc, c'est sûr qu'il y a des coûts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des fondations qui existent, comme la Fondation du Pont vers l'autonomie. Et aussi beaucoup d'ergothérapeutes qui connaissent le produit, qui savent que ça aide les gens. Donc, il y a vraiment des ressources qui sont là pour aider à soit organiser des campagnes de financement, soit les louer pour que les personnes, justement, ne soient pas nécessairement tout seules à avoir ce produit-là. Parce que c'est effectivement certains coûts là, qui sont pas à donner à toutes les bourses là, du jour au lendemain. Mais ça, il y a plusieurs étapes avant d'arriver... avoir le bras installé, là, mais ça, en général, ça peut très bien se passer.
Parce que justement, ce n'est pas remboursable, du moins pour le moment, au Québec. On sait que ça l'est dans les Pays-Bas, entre autres.
Oui, ça revient souvent.
C'est un robot, en fait, qui est surtout vendu en Europe, de l'accessibilité de ce marché. Est-ce qu'il y a du lobbying ici qui est fait pour essayer de faire comprendre au gouvernement, au service public, l'importance et la différence dans la vie des personnes qui utilisent le projet?
Lobbying, je pourrais pas dire, je croirais pas, là, le terme est peut-être un peu fort, mais il y a effectivement plusieurs gens, plusieurs voix qui se lèvent pour faire comprendre que c'est une technologie qui aide concrètement dans la vie de tous les jours les gens. Il y a plein d'applications de gens qui sont capables de travailler temps plein. Juste le fait de pouvoir avoir leurs bras, ça leur donne la petite autonomie de plus. C'est simple, là, mais tu sais, il y a plusieurs applications supplémentaires qui peuvent être connexes, que ce soit installer un iPad ou un iPhone sur le bras pour l'amener devant son visage, puis l'utiliser. On sait, ça peut nous relier au monde entier en envoyant certains courriels. Donc, il y a plusieurs tâches comme ça qui sont faites au jour le jour. Et combiné avec les capacités du bras qui sont déjà en vigueur, ça donne vraiment un plus qui est vraiment notable. Et au-delà de tous les coûts concrets du genre vous avez besoin de moins d'heures d'un aidant ou d'un aidante, mais aussi tous les coûts indirects sur la qualité de vie, là, puis la perception de soi-même. En tout cas, ça, c'est un gros débat, mais ils sont là, on les voit.
Absolument. Ouais. Absolument. Ça s'inscrit dans en fait, une vision globale de la situation. Est-ce qu'on peut croire... ma question va être en deux parties. Est-ce qu'il y a beaucoup de coûts pour l'entretien de l'appareil? Et est-ce qu'on peut croire qu'avec le développement de la technologie dans les prochaines années, le coût d'obtention de ce type d'appareil va réduire?
C'est effectivement une bonne question. Effectivement, on peut y croire. C'est sûr que c'est des produits qui sont développés pas à la même fréquence, exemple, qu'une technologie courante comme un iPhone ou tout ça, qui sort un nouveau modèle à tous les 6 mois. Nous, on peut parler peut-être d'un cycle de 2-3 ans, avant qu'il y ait toujours une nouvelle technologie qui arrive. Mais les coûts d'entretien, bon, évidemment, il y a une grande garantie qui vient avec. Sont couverts dans le sens que effectivement tout est testé. C'est pas un produit consommable qu'on achète chez Best Buy, là. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus... On vous suit. Et l'entretien est pas vraiment élevé dans les coûts. C'est-à-dire qu'il y a souvent des remises à niveau qui peuvent être faites au bout de 2-3 ans. Et c'est par rapport au coût d'achat, c'est minime. Donc, c'est pas... Il y a pas une surprise. C'est pas comme un... Exemple, un véhicule qui va... Dans le sens qu'il va rester quand même en bon état pendant longtemps si on respecte les limitations... Qui sont définis, là, en fait.
Tout à fait. En terminant, si on veut avoir plus d'informations pour, ne serait-ce que pour découvrir, avoir plus d'informations sur les différents appareils, parce que là, on a mis l'accent sur le bras Jaco, mais il y a aussi d'autres appareils robotiques qui ont été développés.
Effectivement, il y a le petit frère, Miko, qui est un peu plus pour le marché, comme justement, de la robotique de service. Oui, il y a plusieurs autres produits qui sont, en fait, connexes, là, mais qui sont toujours un peu basés sur la technologie de Jaco. Puis c'est ça, on a notre site web qui peut être visité, donc www.kinova, K-I-N-O-V-A, robotics, comme en anglais, là, robotics.com. Et vous allez voir sur le portail, en fait, il y a le choix d'aller en robotique d'assistance ou en robotique de service. Vous pouvez vous promener, vous allez voir les vidéos. c'est ça qui est intéressant, vous allez vraiment le voir, il y a une vidéo excellente aussi sur YouTube, on peut le voir, là. où on voit les utilisateurs en fait faire les tâches, les fameuses tâches courantes avec le bras.
On peut le voir à l'œuvre. Ouais. Vous participez aussi. Est-ce que vous êtes présent dans différents salons d'innovation, technologie, ce genre de choses-là? J'ai vu sur votre site qu'il y a plusieurs événements qui s'en viennent en 2016. Votre 10e anniversaire,
c'est
2016,
vrai, j'avais...
plusieurs pays à visiter, l'Allemagne, la Suède, la France, les États-Unis, la Corée même. Il y a un intérêt dans le marché pour ce type de produit? Il y a des besoins?
Oui, absolument. Puis il y a les besoins justement en robotique d'assistance qui sont là. Il y a des grands salons comme le ReaCare qui est en Allemagne, je crois, qui est vraiment un marché mondial pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un intérêt de l'industrie de plus en plus. Et les chercheurs, donc des chercheurs, des recherches connexes qui sont vraiment intéressantes. Un jour, peut-être que le bras va pouvoir être contrôlé par la pensée. Donc ça, c'est vraiment un autre volet. On n'est pas rendu là, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une implication réelle des universités, du monde industriel et du monde commercial. Ça s'en va vers là.
Tout à fait. Et une bonne mobilisation aussi du Québec, parce qu'on le rappelle, c'est d'une initiative d'anciens étudiants de l'ETS. Vraiment une grande fierté qu'on
Absolument.
A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jérôme Bédard, spécialiste de produits chez Kinova Robotics. Merci.
Merci.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime D. Pomerleau.
De retour à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD. Dans cette seconde partie d'émission, j'en ai parlé au tout début, c'est un programme particulier, une première cette saison-ci à Ça vaut le détour. On vous présente une série de courts reportages qu'on a exécutés à l'extérieur des studios. C'est notre collègue Christiane Campagna, qui est aussi recherchiste pour l'émission Ça vaut le détour, qui, cette fois-ci, a mis le chapeau de reporter et est allé faire un reportage à l'école secondaire Joseph Charbonneau, qui fait la fierté de la Commission scolaire de Montréal. C'est une école spécialisée pour les adolescents et jeunes adultes en situation de handicap, mais c'est plus qu'une école spécialisée. Christiane, c'est un milieu de vie adapté aux besoins des élèves.
Oui, parce que l'école secondaire Joseph Charbonneau, une des raisons pour lesquelles les élèves y vont jusqu'à 21 ans, c'est que Atna, en fait, ça communique, là, dans les locaux de l'école, il y a aussi les locaux du centre de réadaptation, des locaux du centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est une extension de Sainte-Justine, et qui a des locaux comme ça dans différentes écoles spécialisées pour offrir la réadaptation et les différents services sur place. Et dans le cas de certains services qui sont prodigués par des infirmières, des préposés, tout ça, ça permet carrément à l'élève de pouvoir poursuivre sa formation. Parce que dans certains cas, il y a certaines de ces aides-là qui, si on ne les avait pas, c'est carrément la poursuite des études là, qui serait problématique.
Justement, parce que c'est la conciliation santé-études. Donc, avant l'âge adulte qui est santé-travail, mais la conciliation santé-études est très importante. Donc, en rassemblant tous les services dans les mêmes locaux, on s'épargne aussi beaucoup de temps dans le transport, beaucoup de voyagements pour les élèves. On s'assure d'avoir aussi une communauté d'enseignants et de professionnels sur place. C'est ce que tu as découvert dans ton reportage.
Oui, je suis contente de m'être déplacée parce que c'est une école qui, dans le cadre d'une entrevue téléphonique ou même si quelqu'un s'était déplacé ici, on n'aurait pas eu une idée de tout ce que ça représente d'intégrer ces deux volets-là. C'est pour ça que je suis vraiment contente et je remercie la générosité de la directrice, Mme Louise Paquette, qui m'a reçue et qui va nous présenter son école dans un premier topo que je pense qu'on va écouter à l'instant. Alors, on est vendredi matin, journée pédagogique, mais moi, j'ai de l'école. Je m'apprête à entrer dans l'école Joseph Charbonneau. Je suis donc sur la rue Rousselot, juste un petit peu au nord de Jarry. Et puis, on s'en va visiter et rencontrer la directrice, Mme Louise Paquette. Est-ce que l'école ici a eu cette vocation-là dès le début?
Oui, Absolument. L'école, depuis, elle a un âge à peu près 42 ans, là, approximativement une quarantaine d'années. Et puis oui, c'était une école qui a été construite pour les élèves ayant un handicap. Mais on peut voir qu'au fil des ans, bon, la clientèle, les handicaps, c'est plus complexe, c'est plus... les situations de santé se complexifient. On dit, bon, évidemment, là, la science fait de belles choses, mais évidemment, il y a de grandes avancées, mais évidemment, nos jeunes ont des handicaps très importants. Évidemment, aussi, il y a de l'intégration qui se fait de plus en plus. Donc, les jeunes sont intégrés dans leur milieu quand c'est possible, évidemment. Donc, ici, je retrouve vraiment les jeunes avec de grands, grands besoins. Quand les jeunes sont dirigés chez nous, le dossier doit être présenté à un comité d'études et de référence qui est à l'école Victor Doré, l'école juste à côté, primaire. Il y a une équipe qui est là, qui analyse les dossiers. Et ensuite, évidemment, il y a des critères bien particuliers. Il faut répondre à certains critères. Et ensuite, on fait une référence, soit chez nous, si les jeunes ont l'âge de venir chez nous. Et nous, on a un comité d'admission. On rencontre le jeune, ses parents, on fait une visite. Ensuite, nous, en équipe multidisciplinaire, on s'assoit, on regarde si oui, le jeune a bien le profil, si on peut vraiment répondre à ses besoins. Et on prend, et le jeune est le bienvenu chez nous. Bien entendu, je reçois des élèves de 18 commissions scolaires différentes. Oui, nous sommes une école de la Commission scolaire de Montréal. Le quart de ma clientèle vient de la Commission scolaire de Montréal, mais tous les autres viennent de 18 autres commissions scolaires. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un milieu très spécialisé. C'est un milieu qui fait que nous sommes un milieu unique là, en son genre pour répondre aux besoins d'une clientèle avec des besoins, de grands besoins, des besoins très particuliers. Donc, on a également, vous pouvez vous imaginer, il y a au-delà de 80 transports tous les matins qui viennent mener les jeunes. Et le soir, ces 80 transports-là viennent chercher les jeunes. Donc, c'est toute une logistique, toute une organisation là, à mettre en place pour bien répondre aux besoins des enfants. Nous avons un partenaire qui est le Centre de réadaptation de Marie-Enfant. Il y a environ 45 employés de l'hôpital Marie-Enfant qui sont ici en permanence, qui travaillent avec nous, dans le fond, qui nous accompagnent dans notre mission éducative. Bien sûr, on ne pourrait pas être là si eux n'y étaient pas, parce que nos jeunes, évidemment, ont besoin des services de ces spécialistes-là. On retrouve... au Centre de réadaptation de Marie-Enfant, on a une inhalothérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, des préposés, infirmières auxiliaires. Nous avons évidemment la chef du programme, l'assistante-chef du programme et les gens qui travaillent à la salle mécanique, les mécaniciens d'appareils, tout ça. Tous les élèves ont un plan d'intervention et nous, on le fait conjointement avec notre partenaire, qui est le CRME. Donc, les jeunes, chacun a son plan d'intervention.
On voit vraiment, effectivement, que c'est un milieu de vie. C'est vraiment réfléchi et mis en place pour assurer, en fait, la meilleure réussite scolaire possible des élèves qui y sont.
Le fait que ce soit si spécialisé et ce qui explique fait que, bien que ce soit une école de la Commission scolaire de Montréal, les élèves viennent de la grande région montréalaise, là, de 18 commissions scolaires différentes, parce que c'est très pointu. Madame Paquette me disait, de plus en plus, c'est des handicaps assez lourds, souvent accompagnés d'un handicap moteur plus un handicap intellectuel, parce qu'en fait, c'est une bonne nouvelle, selon moi, pour deux raisons. Premièrement, ça veut dire que les gens qui ont des handicaps moteurs moins sévères sont maintenant mieux intégrés dans leur milieu et n'ont plus à aller à cette école spécialisée. Mm-hmm. Et l'autre chose, c'est que probablement que maintenant, on scolarise des enfants qu'à une certaine époque, il y a une quarantaine d'années, on aurait tout simplement renoncé à une stimulation, à une scolarisation, si ça aboutissait pas à un diplôme précis, à des métiers précis, tout ça.
Mm-hmm. Est-ce que... elle l'évoquait, il y a le partenaire, entre autres, le Centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est très, très présent pour... Surtout tout ce volet de réadaptation, de soins de santé. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires au niveau éducatif? Il y a un programme régulier aussi qu'on y suit. Il y a des ateliers de stimulation. C'est très diversifié.
Oui, il y a la formation régulière, une formation professionnelle, une formation pour les déficiences intellectuelles légères, une formation pour des déficiences intellectuelles plus sévère, qui est plus de l'ordre de la stimulation et d'amener les gens vers l'autonomie. Dans la seconde partie du topo qu'on s'apprête à entendre, là, on va voir plus justement tous ces services plus spécialisés et à quel point c'est la combinaison de tout ça qui rend le cheminement des élèves possible. Là, on est dans une classe pour l'enseignement général. C'est une configuration vraiment différente d'une classe traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le décrire un petit peu?
Oui. Alors, c'est ça. Chaque jeune a son poste de travail. Donc, évidemment, son poste de travail qui comprend son ordinateur, son écran et tout ça. Et puis, pour chaque jeune, c'est adapté à sa condition physique. Donc, pour adapter les accès, on a besoin de notre partenaire, qui est le Centre de réadaptation de Marie-Enfant, et en particulier les professionnels, les ergothérapeutes. Donc, ils viennent voir, ils analysent qu'est-ce que le jeune a besoin pour avoir accès à son ordinateur, à toutes ces choses. Et ces gens-là mettent en place ce qu'il faut. Ils ont également un atelier. Si jamais il y a des adaptations vraiment, vraiment très pointues, bien, ils sont pas mal tous pointus, là. Il y a les gens de l'atelier mécanique qui appartient au centre de réadaptation. Et il y a des techniciens qui travaillent là, qui ajustent le fauteuil, les accès, etc., ce qu'il faut. Puis évidemment, aussi on dispose aussi de mesures particulières pour des achats de matériel adapté pour ces jeunes-là, évidemment. Alors voilà, donc comme vous pouvez voir, l'informatique est très présente. C'est vraiment un médium intéressant pour favoriser des apprentissages.
En plus des enseignantes régulières, certaines sont en charge d'encadrer les élèves qui ont besoin d'une aide à la parole.
Ces enseignantes, elles sont dédiées en fait pour encadrer les jeunes, puis veiller au bon fonctionnement de l'utilisation des appareils de communication. Parce que dans notre clientèle, nous avons des jeunes qui ne parlent pas. Donc, ils ont besoin d'un appareil qui va faire ce travail-là pour eux. Alors, c'est un appareil, évidemment, qui leur permet de communiquer. Mais là encore, chaque cas est unique, chaque appareil est unique. Il est monté, il est fait, il est programmé en fonction des besoins du jeune. Donc, les enseignantes qui sont ici travaillent en étroite collaboration avec les enseignantes titulaires du jeune. Bon, pour s'assurer là qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un bon suivi au niveau pédagogique et qu'on puisse vraiment boucler la boucle, ces enseignantes-là travaillent aussi en étroite collaboration avec les parents parce qu'évidemment, l'outil est amené à la maison et facilite de beaucoup, évidemment, la communication. Donc, c'est un service vraiment important, essentiel à l'École Joseph Charbonneau pour les enfants non-neuro.
La technologie joue vraiment un rôle important. Alors, j'imagine qu'à mesure qu'elle avance, à mesure qu'il y a des nouvelles avancées technologiques, ça facilite un peu la vie de votre personnel?
Oui, puis c'est certain que c'est exigeant également parce que le personnel doit toujours se tenir à l'affût des nouveautés, des nouveaux appareils. Et c'est certain que, bon, on parle beaucoup aujourd'hui des iPads, des tablettes, si on veut, et les tablettes, bien sûr, sont fragiles. Donc, évidemment, il faut s'assurer là, que ce soit bien installé. Et ce n'est pas accessible pour tous nos jeunes, là, évidemment, selon l'handicap. Alors, tout est fait là, sur mesure ici. Tout est à la carte.
C'est bien beau, la technologie, mais ça prend aussi des experts qui savent aider les élèves à contourner certains obstacles.
Alors, je vais vous présenter Mme Sylvie Gay, qui est enseignante orthopédagogue spécialisée pour les élèves qui ont un problème auditif ou visuel. Donc, c'est notre grande spécialiste en enseignement pour ces jeunes-là. Parce que nous avons, comme je le disais au tout début, nous avons des enfants, des jeunes bon, multi-handicapés. Donc, nous avons des jeunes également qui ont des problèmes, soit auditifs, visuels. Et Mme Gay est vraiment spécialiste là, pour intervenir auprès de ces jeunes-là. C'est sûr que tous les jeunes sont en classe avec leur titulaire. Mme Gay supporte les rencontres en individuel ou en sous-groupe et travaille en étroite collaboration avec les enseignants.
Dans le fond, le but de mon intervention, c'est que les élèves se développent des stratégies pour compenser leur handicap visuel ou auditif, malgré aussi leurs autres limites, parce que la plupart ont aussi une déficience mentale associée. Donc, comment compenser, développer des stratégies aussi pour mieux, pour que les gens interviennent de façon plus adéquate avec eux, mieux connaître leurs besoins. Est-ce que j'ai besoin d'agrandissement, d'un éclairage? Donc, c'est pour que les jeunes intègrent ces stratégies-là.
Tous ces ajustements sont facilités par le fait que les spécialistes de la mécanique du Centre de réadaptation Marie-Enfant sont présents sous le même toit.
Alors ici, c'est notre, comme je parlais, de la salle mécanique. Donc, c'est ici. Donc, il y a des techniciens qui font les adaptations, les réparations de fauteuils, les ajustements. Tout ce que vous pouvez imaginer de créativité se passe ici pour permettre aux jeunes vraiment d'être le plus fonctionnel possible. Alors, ils travaillent évidemment avec les ergots et puis évidemment notre personnel, les enseignants et tout. Donc, c'est vraiment tout un travail d'équipe.
La personne qui... Les services techniques adaptent même les instruments de musique.
C'est quand même fascinant. C'est vraiment, comme elle le disait, de l'ingénierie, de la créativité dans ces murs-là.
Oui, puis c'est ce qui fait que c'est un écosystème complet, en fait, là, la réadaptation, les côtés techniques. Le fauteuil de l'élève brise dans la journée, bien, il est pas... C'est au sein même de l'école qu'on va pouvoir... apporter une réparation.
Mm-hmm. Je fais un lien avec notre entrevue précédente avec Kinova Robotics qu'on avait dans les studios. Vraiment, la technologie, en fait, peut vraiment changer la vie quotidienne des personnes avec des limitations. On le voit concrètement. Et c'est pas seulement à titre individuel avec le bras robotisé de Kinova, mais aussi dans l'école. C'est une dimension qui est très, très importante à l'école Joseph Charbonneau.
Très important, et rendons à César. Là, moi, j'ai eu l'idée de faire ce reportage-là en entendant un reportage à l'émission La Sphère à Radio-Canada qui portait plus particulièrement sur l'apport de la technologie, surtout pour les élèves qui ne peuvent pas utiliser leurs bras, notamment... pour faciliter le fait de faire les travaux, tout ça. Un reportage d'Hélène Mercier, dont la sœur travaille à l'école Joseph Charbonneau. Je voulais aussi faire une petite parenthèse, un petit crédit, puisque pour les deux premières parties qu'on vient d'entendre, j'ai utilisé la musique du musicien de Québec, Olivier Soucy, et de son album « Patrimoine est réel ».
Justement, on va aller en musique encore une fois, et au retour, on va entendre d'autres courts reportages. Cette fois-ci, ce sera surtout pour visiter de manière un peu plus concrète les lieux d'apprentissage de l'école spécialisée Joseph Charbonneau.
Thank you.
un succès souvenir de Prince. Alors, la pièce Cream est tirée de son album Diamonds and Pearls. Un succès de 1991. Prince, qui était à Montréal hier, donc il avait annoncé la semaine dernière une visite surprise ou un spectacle au piano solo. C'était au Théâtre Maisonneuve devant 1500 fans finis. Et apparemment, bon, Prince, un grand performeur, donc 2h30 de spectacle dans toute sa théâtralité. On espère qu'il revienne. Montréal est une ville qui l'apprécie beaucoup et qui fait toujours, voilà, la satisfaction des mélomanes de la ville. On continue l'émission. Christiane Campagna est toujours dans nos studios. On présente une série de reportages sur l'école spécialisée Joseph Charbonneau de la Commission scolaire de Montréal. Avant d'aller à la visite des lieux typiques qu'on trouve dans une école, donc la cafétéria, la bibliothèque, on va aller voir le secteur de la formation générale, de la formation professionnelle plutôt. Mais d'abord, décris-nous une salle de classe sur place à l'école Joseph Charbonneau.
Oui, parce qu'il n'existe pas de classe avec des pupitres et des chaises comme on les connaît dans les écoles régulières. Donc, ce sont des grandes pièces avec des tables concentrées au centre. Et autour, on trouve les ordinateurs où chaque poste de travail est ajusté à la bonne hauteur pour chaque élève. Alors, ça diffère vraiment de la... C'est pour ça que ça valait la peine de se déplacer. Ça diffère vraiment de la vue traditionnelle qu'on se fait d'une salle de classe. Et là, on va visiter encore un petit peu l'école parce que c'est comme ça que s'est déroulée ma visite. Madame Paquette m'a fait visiter toute l'école. Et on va voir certains lieux typiques d'une école, mais avec une couleur particulière dans ce cas-ci.
Ici, c'est une salle où on fait différentes activités qui préparent les jeunes au travail. Donc, c'est un atelier, entre autres, de démontage. Alors, les jeunes ici apprennent à faire du démontage d'ordinateurs, de divers matériels. Donc, ça nécessite évidemment plusieurs habiletés manuelles. Bon, évidemment, encore les ergots supportent l'enseignant et c'est toute une équipe. Donc, les différents groupes viennent ici pour faire le démontage. Donc, voilà. Ensuite, juste à côté, on a aussi un atelier de bijoux. Donc, on a des élèves qui font des bijoux. Alors, voilà. Là encore, on met à profit de leurs compétences de créatif et évidemment manuel pour ceux qui peuvent utiliser leurs mains pour produire des beaux bijoux. Alors, nous voici donc à la bibliothèque. Donc, nous avons une technicienne qui travaille temps plein ici, Mme Lesgenais. Alors, elle coordonne toutes les activités de la bibliothèque. Évidemment, elle connaît tous les jeunes et évidemment, elle s'assure d'avoir de tout pour tout le monde. Alors, ça passe de livres, de romans, de matériel plus adapté à la clientèle en déficience intellectuelle profonde. On a de tout. Alors, on peut même faire louer des films, des petites vidéos, etc. Donc, il y a pas mal de tout. Les élèves, c'est un lieu très apprécié, très aimé des élèves. À la cafétéria, chaque jeune a une place assignée. Les jeunes ne s'installent pas à une table de façon aléatoire. Chaque jeune a sa table. Chaque jeune a également sa fiche. On peut le regarder. Ils ont une petite fiche identifiée avec leurs photos et avec les spécifications bien particulières en lien avec la santé. Donc, il y a certains jeunes qui doivent manger haché, faim. D'autres, les liquides doivent être épaissis pour éviter un étouffement, etc. Et toutes ces fiches-là sont préparées en collaboration avec les gens du milieu de la santé, du Centre de réadaptation de mère et enfant. Ces gens-là aussi supportent au niveau de l'enseignement, si on veut, au niveau de la formation des surveillants de dîner qui font manger les jeunes. Donc, en début d'année, on met ça en place pour s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art, si on veut, et en toute sécurité pour les jeunes. Alors, voilà. Donc, ça vous donne un aperçu. Il y a également des jeunes. Nous en avons cette année environ 25 qui ne mangent pas. En fait, ce sont des jeunes qui sont gavés. Donc, c'est un acte qui se passe au niveau du CRME. Donc, ce sont des infirmières qui s'occupent de les nourrir ainsi, là, par gavage.
La cloche de l'école, le traditionnel son.
J'ai pas pu résister au fait de la mettre dans le reportage. Ça rend un petit peu nostalgique. Bien, on va conclure avec quelques petits extraits qui concernent des activités précises, soit des cours, soit des activités parascolaires, de l'art plastique, de la musique et le club de marche.
On a des cours de musicothérapie et qui sont offerts aux élèves du secteur de la FBC, des cours très appréciés. Nous avons la chance d'avoir deux musicothérapeutes hors pair. Nous sommes très privilégiés, Madame Linda Labbé et Madame Caroline Coulombe. Voilà.
Lucie Mousseau, enseignante en arts plastiques. On fait du dessin, de la peinture avec les jeunes. On fait des activités, on leur montre des nouvelles techniques. On les laisse, c'est ça, on essaie de trouver des activités qui peuvent s'exprimer. Ensuite, on fait aussi des sorties. On va au musée avec eux. On fait venir aussi des artistes à l'école. On a déjà fait ça. Plusieurs activités comme ça pour nos jeunes, là, pour qu'ils puissent s'exprimer. Puis surtout des jeunes qui aiment faire ça, qui aiment faire de l'art.
Alors, nous avons un club de marche. Donc, une journée dans la semaine, en après-midi, les jeunes marchent, ceux qui peuvent le faire, avec une marchette. Mais évidemment, tout est supervisé par les physiothérapeutes qui accompagnent les jeunes dans... Et ça fait partie en même temps de leur thérapie. Puis étant donné qu'on a de l'espace, les corridors sont larges, ça facilite cet exercice-là.
Wow, une panoplie d'activités. Tu disais hors onde que justement ce club de marche, où est-ce qu'il y a plusieurs marchettes dans un coin et où est-ce que les jeunes peuvent s'entraîner à la marche?
Il y a un gymnase adapté, une piscine, et il y a le gymnase des physiothérapeutes aussi du côté du centre de réadaptation.
Donc, c'est un bref aperçu qu'on a eu, notamment sur ces activités d'art plastique, de la musique, du club de marche. Ce sont toutes des activités, toutes des installations qui permettent une meilleure inclusion à l'école. On aura l'occasion d'approfondir peut-être certains aspects, de se repencher là-dessus au courant de nos prochaines émissions. Merci beaucoup, Christiane Campagna, recherchiste pour Ça vaut le détour, mais d'avoir fait ce reportage à l'école spécialisée Joseph Charbonneau.
Ça fait plaisir.
Et on espère avoir l'occasion de refaire d'autres types de reportages. On t'enverra sur d'autres terrains. S'il y a des gens qui ont des idées de reportages, on vous invite à nous écrire, à nous contacter à Canal M. Et c'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, mes collaborateurs, Benoît Rassette, organisateur communautaire chez Execo. Et on avait aussi Jérôme Bédard de Kinova Robotics, qui était dans nos studios, Christiane Campagna à la recherche et aux médias sociaux, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.